Si vous aviez à parler de votre corps comme d'une personne, que diriez-vous? Comment le présenteriez-vous à autrui? Je ne vous demande pas de répondre maintenant à cette question, mais de la considérer. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes de votre relation avec votre corps. Mais le fait que vous parliez de l'amour comme vous le faites me donne à penser que vous commencez sans doute à vous défier de lui. Vous entrez dans la phase que je nomme le corps inamical. Pendant des années, vous avez vécu avec lui, en lui, en parfaite osmose, dans un équilibre qui vous satisfaisait. Vous l'entreteniez du mieux que vous pouviez, et il vous procurait en échange ce que vous attendiez de lui au moment où vous l'attendiez. Performance physique, amoureuse, plaisir alimentaire, sensation. Les maladies bénignes qui de temps à autre l'affectaient ne remettaient pas en cause la confiance que vous placiez en lui. Elle agissait au contraire comme des marqueurs inversés qui vous faisaient plus encore apprécier les moments majoritaires où il était votre allié. Puis, le temps a lentement opéré son... Puis, le temps a lentement érodé votre partenaire. Vous avez senti peu à peu sa présence, je veux dire, sa marque, son usure, son défaut à vous suivre. Est apparu alors un sentiment amer de dissociation. Un peu comme dans le cadre d'une relation amoureuse qui, après avoir été idylle, se dégrade. On finit par oublier les qualités de l'autre pour ne voir que ce qui nous agace. On peut d'ailleurs mener une... Excusez-moi. Cela peut d'ailleurs mener à une certaine forme de cruauté. Le partenaire mécontent s'en prend à son conjoint. Le harcèle, le fait souffrir, va jusqu'à le maltraiter. Combien cette attitude est-elle commune aussi chez ceux qui ont le sentiment d'être trahis par leur corps et lui font alors subir ce qui accentuera encore la mauvaise image et l'usage pathogène qu'ils ont de lui. L'humain oublie son corps car celui-ci jamais ne le gêne. Au contraire, il lui offre l'étendue de ses possibilités et leur parfaite maîtrise que l'expérience et la connaissance de soi permettent d'acquérir. C'est un allié indéfectible et l'équilibre de cette relation donne l'illusion qu'elle pourrait durer toujours. Or, le temps est là, tapis en mains endroits, aussi bien dans la fleur du péché qui se fane que dans la peau qui se frite, dans l'articulation qui se grippe, le cheveu qui blanchit. Mais la métamorphose qui atteint la fleur de péché, la conduisant à devenir un fruit au terme de plusieurs mois, ne touche pas notre corps et ne délivre donc aucune promesse. Chaque modification qui l'affecte, passé un certain âge, conduit à une perte de performance et à une dégradation que rien ne peut inverser. C'est pourquoi les premiers signes qui indiquent soudain que notre corps s'inscrit dans ce processus sont perçus par bien des sujets comme les marques d'une trahison. On a beau l'avoir soigné, lui avoir offert les meilleures conditions d'existence grâce à une alimentation choisie, au sport, à une bonne hygiène de vie, il témoigne d'une reconnaissance limitée, puisque, quoi qu'il en ait fait, il agit désormais contre le sujet, ne tenant aucun compte de sa volonté ni de ses aspirations. Son ingratitude nous affecte. Corps hostile, puis inamical, souffrant, ennemi, et enfin perdu. Les étapes s'enchaînent inexorablement jusqu'à la mort. Elles attestent doute de la suprématie que le corps chutant prend sur l'esprit. L'humain n'est humain apaisé que pendant une vingtaine, bon, disons maintenant une trentaine d'années. Avant et surtout après, il lutte. Aujourd'hui, nous avons mis en place des protocoles de tricherie qui tentent d'abuser autrui et nous-mêmes. La chirurgie et la cosmétique travaillent sur la restauration d'une relation heureuse entre le corps et le sujet, quand bien même le premier a déjà atteint les phases d'hostilité, voire d'inimitié et de souffrance que j'ai évoquées. Il s'agit de fonder une illusion pour l'esprit par le biais de leurs extérieurs. Mais leur action est forcément limitée car elle n'agit pas sur la perception intérieure du corps qui, elle, suit le temps cruel des horloges biologiques. Disons que, de nos jours, on cherche à tout prix à mourir beau. Nous cherchons à tout prix à mourir beau. Cela ne nous empêche pas de mourir souffrant et amer. Est-ce que cela fait de nous des êtres moins malheureux? Je n'en suis pas certaine. C'est sans doute même le contraire qui se produit. En contrariant les phases de la relation naturelle que nous devrions avoir avec notre corps, nous augmentons notre ressentiment vis-à-vis de lui, ainsi que notre propre souffrance.
Non, je t'en prie. Je t'en prie, arrête. Arrête, pas comme ça, tu m'étouffes. Attends. Oui, oui, j'aime faire l'amour, mais je voudrais... un peu de... Comment dire tu me serres. Lève-toi. Assez. Tu me barbouilles toute la figure. Ah non, pas dans l'oreille. Oui, j'aime ça, mais on dirait un batteur électrique, ta langue. Combien as-tu de mains?
Laisse-moi respirer. Lève-toi, je te dis.
Ah, enfin.
Je suis tout en sueur. C'est ça, j'aime faire l'amour, mais je voudrais le faire aussi avec un peu de sentiment. Non, rien à voir avec le sentimentalisme. Alors ça y est, je le savais bien, il fallait que ça sorte, que je suis une connasse romantique et fleur bleue. Bien sûr, j'ai envie de faire l'amour, mais vas-tu comprendre que je ne suis pas un flipper où il suffit de mettre 100 lire pour que toutes les ampoules s'allument. Tu peux le secouer comme tu veux, je ne suis pas un flipper. Si tu me secoues, moi je fais tit. Tu comprends? C'est pas possible, hein. Si une fille ne prend pas tout de suite une position commode, jupe levée, slip baissé, jambes ouvertes et bien tendues, c'est d'une connasse complexée, paralysée par le sentiment de l'honneur et de la pudeur que lui a inculqué une éducation réac, impérialo, capitalo, maçonnique, catholico, conformiste, austro-hongroise et répressive. J'en sais des choses. Hein. Et une femme qui sait, ça vous casse les couilles. Mieux vaut l'idiote avec le petit rire érotique. Bon, inutile de te foutre en rogne. Mais non, je ne suis pas vexée. Bon, ça va. Faisons l'amour. Dire que quand tu veux, tu sais être si doux. Presque humain. Un vrai camarade. Avec toi, j'arrive à parler de choses que d'habitude je n'arrive pas à exprimer. Des choses intelligentes même. Oui. Avec toi, j'arrive à me sentir intelligente. Je me réalise. Tu ne vas pas avec moi seulement parce que tu aimes la façon dont je fais l'amour. Même après, tu restes avec moi. Tu parles. Tu m'écoutes. Tu parles. Je t'écoute. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Et moi... Ah non, arrête-toi, s'il te plaît, je vais tomber enceinte. Non mais arrête. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je n'ai pas pris la pilule. Non, je ne la prends plus, elle me fait des seins gros comme les coupelles du Vatican. Oui, bon, continuons, mais je t'en prie, fais attention. N'oublie pas ce qui est arrivé l'autre fois. J'en ai été malade. Bon, oui, je sais, t'en as été malade aussi, hein, mais moi, encore plus. Oui, oui, d'accord, continuons, mais fais attention.
Nous reviendrons sur ce qui s'est passé, mais le premier fait a été que Laurence, dans sa lettre, ne se plaint pas, mais met en mots lucides et impitoyables ce que nous savons toutes. Elle se situe même parmi ces femmes universitaires pour qui se faire une place revient d'abord à se construire une place qui garde en mémoire le risque d'être déplacée. Elle évoque les bonnes élèves, bosseuses voire besogneuses, qui savent qu'elles sont tolérées pour autant qu'elles restent inoffensives. On laisse parler les hommes, dans les réunions, dans les colloques, et même peut-être dans les livres. Parce que beaucoup de nos collègues ne nous pardonneront d'être intelligentes que si nous commençons à être brillantes. La modestie est une vertu cardinale pour les femmes, bien sûr. On exécute, on fait la petite main, on applique sagement ce qu'on nous a appris, mais on n'invente pas, ou alors seulement au margine. Sur les questions sans prestige auxquelles les hommes ne consacreraient pas une heure de peine, rien de très réjouissant dans cela. d'autant moins réjouissant que la gifle de rappel n'est jamais loin. Et pour le coup, nous, qui n'avons pas vraiment adopté une position modeste, nous savons parfaitement, pour l'avoir vécu, de quoi parle Laurence. Les ténors de la faculté sont, comme il se voit, tous des hommes. Pas étonnant, un homme qui prend la pose se scandalise et en appelle à l'équité, à l'honnêteté intellectuelle et à la dignité académique est un homme qui a le sens des valeurs universitaires, universelles. Une femme qui fait de même est une hystérique. Cette expérience, nous la connaissons bien et nous savons à quel point elle est empoisonnante, car elle s'impose souvent comme indécidable. Certes, il arrive qu'on reçoive une gifle de rappel alors qu'on s'y croyait à sa place. Même alors, il est possible de se dire rétroactivement qu'on y est pour quelque chose. Quelque chose dans ma voix, mon attitude, ma tension a marqué que je ne me sentais pas tout à fait à ma place et a autorisé la réaction qui m'a signalé qu'en effet, je n'y étais pas. Indécidabilité de la poule et de l'œuf, pourrait-on dire, entre ce qu'on sent et ce que d'autres nous font sentir. C'est là le sens même de cette notion de marquer, lorsque la marque insiste là où elle est censée ne plus avoir cours. Comment s'étonner alors que les femmes, comme le souligne Bocchio, adoptent souvent spontanément la position de l'inoffensive ? Position humiliante pour un homme, tout à fait acceptable pour une femme, que l'institution favorise dès les premières années d'études. Comme si elle ne se sentait pas autorisée à contester, à discuter, à mettre en cause, ou alors simplement de manière très soft, sous forme de questions et de suggestions dont elle laisse déjà entendre en les formulant qu'elle pourrait être prête à y renoncer. Elle n'en pense pas moins, mais dans la plupart des cas, elles lâcheront le morceau plus facilement que les hommes. Être déplacée et vouloir néanmoins trouver une place en acceptant d'emblée la marque qui assigne le déplacement. Cette attitude docile et soumise, souligne Bocchio, c'est la tentation des parvenus, ceux qui n'ont pas su rester à leur place et qui ont investi des lieux qui ne leur étaient pas destinés. La position des femmes est-elle finalement différente de la situation de ceux qui ne sont pas les fils d'hommes cultivés et dont on s'attend à ce qu'ils n'aient ni la classe ni l'élégance de ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits? Le parvenu, c'est aussi le traître. Celui qui, parce qu'il se sent déplacé, veut trouver une place dans les termes cette fois de « j'y suis parvenu », voire « j'y suis bien parvenu, pourquoi pas les autres ». Le parvenu est un produit de la situation qui stabilise cette situation et de ce fait rompt avec les possibilités de solidarité ou de résistance. Le fait d'être déplacé pour une femme change de modalité dans ce cas. C'est par rapport aux femmes que celles qui sont passées dans l'autre camp ont à se démarquer. À l'époque où j'essayais de lire les textes de Leibniz sur le calcul infinidécimal, j'ai un jour assisté à une table ronde autour de Pierre Bourdieu. Il y était entre autres question du fait que certains objets d'études étaient typiquement masculins et d'autres typiquement féminins. Comme exemple des premiers, je me souviens que Bourdieu avait pris la mathématique de Leibniz. Le collègue qui était assis à côté de moi m'avait dit en se marrant qu'il ne savait pas que j'étais un travaux. J'avoue que j'en ai conçu une certaine et stupide fierté. En revanche, j'aurais trouvé insultant au dernier degré qu'on me dise « Ah, c'est bien ce que tu étudies là, c'est un beau sujet pour une femme. » Ou « On voit à ta manière d'aborder la question que tu es une femme. »
Les usines de date de Mixart n'existent plus. Elles se trouvaient entre la Belle de Mai et la Buisserie. Et il y en avait une vers l'Estac. C'était vraiment considéré comme le pire des boulots. Dans la mentalité des gens, si tu n'étais pas considéré, on te disait « Oh, va travailler aux dates !» Comme on dit « Va te jeter au goudre !» On disait aussi « C'est un travail de femme, de fainéante !» C'était un travail saisonnier et précaire. Les ouvrières travaillaient 2 mois, 4 mois. Quand elles trouvaient mieux, elles n'allaient plus. Sinon, elles y retournaient. C'était l'arbitraire total. Je parle de la situation en 1983, quand j'ai fait mon enquête. À l'embauche, on les traitait comme des bestiaux. On venait les chercher à l'entrée de l'usine, en les désignant du doigt. « Toi, toi, toi !» Elles travaillaient sur un tapis roulant. Il fallait trier, emballer. Il y avait un nombre de boîtes à produire. La chaîne, quoi. Les dattes venaient d'Algérie, de Tunisie et d'Irak. On y produisait aussi des fruits secs. Tout ça lié à la tradition provençale des 13 desserts. Fruits secs, figues, dattes, gibassiers, pompe à huile, pâte de coin, nougat. Dans les années 80, c'était beaucoup des filles de la deuxième génération d'émigrés maghrébines qui travaillaient là. Il y avait aussi des gitanes et quelques-unes de la première génération qui étaient venues relativement jeunes dans le regroupement familial. C'était des mères de famille pauvres qui étaient entre deux. Les femmes de la deuxième génération étaient de nationalité étrangère avec le statut « je ne suis pas ici chez moi ». Elles risquaient d'être expulsées, c'était ça qui les tenait, la peur de ne pas avoir la carte de séjour renouvelée. Moi-même, je suis née en France, mais j'ai gardé la carte de séjour jusqu'en 1996. La date d'entrée en France, c'était ma date de naissance. On pouvait avoir la nationalité française, mais on ne nous le disait pas. En plus, beaucoup de familles qui avaient combattu en Algérie ne voulaient pas devenir françaises. Si on avait eu le droit du sol, ça aurait été plus facile pour nous. Aux dates, on pouvait probablement travailler sans les papiers en règle. C'est ça qui permettait de tenir les filles. Pour qualifier ce métier de travailleuse, j'ai développé le concept d'ouvrière marginalisée. Quand je suis allée à l'usine, j'ai découvert qu'il y avait des ouvrières permanentes qui étaient considérées comme la classe supérieure. Toutes européennes d'origine, elles avaient la blouse de l'usine, le droit de manger à la cantine. Elles étaient syndiquées, alors que les ouvrières de base étaient privées de tout ça. Une de mes sœurs a travaillé à Mikasa. Nous étions les pauvres des pauvres. Ma famille vivait dans un bidonville de l'Estac qui a été réhabilité en 1997. Ma sœur adorait la mécanique, mais on l'a refusée au CAP parce qu'une fille en mécanique, ça ne se faisait pas. Et elle ne s'est jamais bien sentie à l'école. Alors, elle a enchaîné les petits boulots. Quand elle parlait de Mikasa, elle me décrivait le bagne. Les dattes, il les trafiquait, parce qu'il les achetait vertes et il les trempait dans un bain de glucose. L'endroit où il y avait le trempage, c'était l'endroit punition. Celles qui n'étaient pas gentilles, pas obéissantes, on les mettait là. Elles se prenaient de la vapeur brûlante. En règle générale, dans les usines alimentaires de Marseille, quand on voulait punir les femmes, on les mettait à l'épluchage des oignons pour les sauces tomates. Il y avait celles qui travaillaient à Danone, celles qui travaillaient au surgelé, aux crevettes. On ne restait pas longtemps parce que c'était trop dur. Les saisonniers, c'était déjà difficile pour eux de s'organiser. Alors, des femmes immigrées avec des statuts précaires, elles avaient la haine. Ma sœur disait qu'à Mikasa, leur mode de résistance, c'était de cracher dans les dattes. Surtout, n'achetez jamais les dattes de Mikasa, elle disait.
Martine au lycée ou comment Macron veut détruire l'avenir de nos enfants. Martine a 15 ans, elle est en seconde. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire plus tard, mais avec la réforme Blanquer, elle doit choisir des spécialités. Son prof de SES lui conseille de s'orienter vers le droit. Il y a plein de débouchés. Le mieux serait qu'elle prenne SES, Histoire Géo et Maths. Mais dans son lycée, il n'y a que 36 places en SES. Le professeur lui explique qu'il y a de la place dans un autre lycée à 30 minutes en voiture de là. Ses parents ne peuvent pas l'accompagner et la ligne de train a été supprimée. Du coup, elle reste dans son lycée et abandonne l'idée des SES pour prendre physique chimie, car il reste de la place. Avec la réforme Blanquer, il y a 36 élèves par classe. De plus en plus de profs sont des contractuels, c'est-à-dire des précaires par intérim, c'est dur pour tout le monde. Martine regrette ses choix, mais il est trop tard. Comme elle doit encore choisir d'abandonner une option en terminale, elle décide de laisser tomber l'histoire géo et ne garde que les sciences, c'est plus logique. L'année du bac, les examens commencent en novembre et chaque note compte. Elle n'a pas le droit à l'erreur, c'est la pression permanente. En plus, comme elle est dans un lycée d'une petite ville, elle sait que ses notes compteront moins que si elle était dans un lycée prestigieux. Elle a son bac, elle ne peut plus faire de droit car il fallait garder SES. Elle voudrait faire médecin, mais personne ne lui avait dit qu'il aurait fallu qu'elle prenne l'option SVT. Dégoûtée, elle fait ses choix sur Parcoursup pour l'université dans des filières qui ne lui plaisent pas du tout. Finalement, à cause de ses choix d'il y a 3 ans et de la mauvaise réputation de son lycée, elle est placée sur liste d'attente. Comme elle a peur de ne rien avoir, elle choisit une école privée. Pour la payer, elle travaille dans un fast-food et emprunte à la banque pour 10 ans. Tout est bien qui finit bien.
Fais attention. Je n'y arrive pas. Cette histoire de grossesse, moi, ça m'a glacé le sang dans les veines. Hein ? Diaphragme ? Oui, ça m'arrive, mais tu m'avais pas dit qu'aujourd'hui... voilà. Et puis, j'aime pas trop ce truc de caoutchouc dans le ventre. Ça me fait drôle, j'ai l'impression d'avoir un chewing-gum. Il n'y a plus de poésie ? Eh bien, je regrette. C'est tout de même drôle, je veux pas tomber enceinte et il me dit qu'il n'y a plus de poésie. Tu appelles ça être un camarade ? Tu sais ce que tu es ? Le camarade à ton zob. C'est avec lui que tu raisonnes, c'est lui ton camarade. C'est lui qui est resté catholico-impérialo, plutôt franc-maçon et refoulé. Regarde-le bien, il porte le calot de cardinal avec des galons de général et le pompon fasciste. Oui, fasciste ! Grossier personnage. Tu n'aurais pas dû me dire ça. Me dire que je raisonne avec mon utérus. Oui, je pleure. Tu m'as blessée. Comment ? Je pleure et ça t'excite ? Ah, mais oui. Oui, moi aussi, je t'aime. Je sais, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de la société, de l'égoïsme, de l'exploitation, de l'impérialisme, des multinationales. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête-toi, arrête ! Oh, tu ne t'es pas arrêtée. Je suis enceinte !
Quand j'entre dans la chambre, 2 des 3 femmes que Karma a avortées sous mes yeux sont assises sur leur lit devant un plateau repas. L'une des 2 sourit et engloutit une assiette de petits salés aux lentilles. L'autre chipote sur du poulet de la purée. Karma est assise sur une chaise entre les 2 lits, les dossiers sur les genoux. Je regarde le visage des 2 femmes et sans les bonnets qu'elles portaient sur la tête tout à l'heure, j'ai du mal à les reconnaître.
Ah! Voilà notre interne, le docteur Adwood. C'est elle qui vous a aidé à vous détendre tout à l'heure pendant l'intervention. Nous étions en train de parler de contraception, chère amie. Madame V va bien sûr opter pour un stérilet qu'on va d'ailleurs lui poser tout à l'heure avant qu'elle parte, si elle n'a plus mal. Vous avez mal combien ?
Moins que tout à l'heure, 4 sur 10.
Bien, les anti-inflammatoires sont en train de faire de l'effet. Alors, mais Madame A ne veut plus prendre de pilule car elle a été enceinte 2 fois avec.
Vous l'avez oublié ?
Jamais. Pas une fois.
Vraiment ?
Jamais. Mon cellulaire sonne tous les soirs à la même heure. Ma plaquette est dans la même poche que le cellulaire. Je ne l'ai jamais oublié.
Quand Madame A est allée consulter un gynécologue pour se faire prescrire une contraception l'an dernier, cette consoeur lui a prescrit la dernière pilule en date en lui expliquant qu'elle était très légèrement dosée et par conséquent, elle ne risquait ni cancer du sein, ni hypertension, ni prise de poids, ni cholestérol et qu'elle n'aurait aucun effet secondaire.
Ah, ça c'est sûr, je n'ai pas fait de cancer du sein. Seulement, au bout de 3 mois, j'ai pas eu de règles. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit
« Ça arrive, c'est pas grave.
Bah, » Je voyais bien que je l'embêtais, mais j'ai un peu insisté. Et comme elle connaît mes parents, elle m'a donné un rendez-vous 3 jours plus tard, entre deux patientes. J'avais pas dit à ma mère que j'allais voir la gynéco pour la pilule la première fois. Je lui avais raconté que j'avais mal au moment de mes règles et que pour que j'aie pas besoin d'aller à la pharmacie, la gynéco m'avait donné 2 boîtes de 3 plaquettes qu'un représentant venait de lui laisser. Mais là, 3 mois plus tard, quand je suis arrivée dans son cabinet, elle faisait la gueule. Elle m'a fait déshabiller sans rien me dire et m'a mis sa sonde dans le vagin. Et elle a commencé à m'engueuler en me disant que si j'étais pas capable de prendre la pilule correctement, c'était vraiment pas la peine qu'elle se casse la tête à me la prescrire. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Je lui ai demandé, elle m'a dit
« Vous êtes enceinte de 8 semaines et ne me dites pas que vous ne vous en êtes pas aperçu. »
Eh bien non, je ne m'en étais pas aperçue. J'avais juste les seins un peu gonflés et je lui en avais parlé en l'appelant. Elle m'avait dit
« C'est rien ».
Sur ce, elle m'engueule en me disant que j'ai sûrement pris ma pilule n'importe comment. Et avant même que j'ai pu m'expliquer, elle me dit qu'elle va me faire ça sans le dire à mes parents parce que je suis mineure, mais que c'est bien la dernière fois et qu'il ne faut pas que je lui refasse ces conneries-là. Je me suis retrouvée dans la salle d'attente, pas encore habillée, avec à la main un papier de rendez-vous dans sa clinique la semaine suivante. Forcément, j'étais tellement soufflée, d'abord de savoir que j'étais enceinte, et puis de l'engueulade que je m'étais reçue, que je suis rentrée chez moi, je ne sais pas comment. Je ne me souviens même pas avoir pris le bus et traversé le pont piéton qu'il faut prendre au-dessus de la voie ferrée pour rentrer. Quand je suis arrivée, j'étais trempée comme une soupe, je n'avais même pas vu qu'il pleuvait. Je me suis mise au lit, ma mère a cru que j'étais malade. Elle a voulu me parler, mais je ne pouvais rien lui dire, forcément. Elle ne savait pas que je couchais avec mon petit ami. La semaine d'après, je suis partie de chez moi à 7h30 comme d'habitude. Mais au lieu d'aller au lycée, je suis allée à la clinique. Et pour que le lycée ne prévienne pas mes parents que j'étais absente, ma tante, à qui j'en avais parlé, a appelé le matin en se faisant passer pour ma mère et a dit que j'étais malade et que je ne viendrais pas de la journée. Je suis ressortie l'après-midi à 5h30 et comme ça, je suis rentrée chez moi. La gynéco m'a avortée sous anesthésie générale, mais elle n'est pas passée me voir de toute la journée. Je crois bien que je ne l'ai même pas vue pendant l'avortement. J'ai vu que l'infirmière et l'anesthésiste. Elle m'a fait ça pendant que je dormais et elle est partie avant que je me réveille. Quand je suis sortie, ma tante est venue me chercher. C'est elle qui avait signé tous les papiers, puisqu'il faut qu'un adulte signe quand on n'est pas majeur. L'infirmière lui a donné un sac en lui disant qu'il y avait 6 mois de pilule dedans. Elle a ouvert le sac et elle a dit
« Mais c'est avec cette pilule-là qu'elle est tombée enceinte. »
Et l'infirmière a répondu
« Elle l'a sûrement oublié. C'est pas possible d'être enceinte quand on n'oublie pas. »
Et quand elle me l'a donnée, je me suis mise à pleurer. Parce que j'étais sûre, certaine de chez certaine, que je ne l'avais pas oubliée.
« Et il y a de quoi » enchaîne-t-il, « parce que notre consort ne lui a pas dit, sûrement pas parce qu'elle ignore que si tel est le cas, venant d'une professionnelle, c'est bien regrettable, que chez une très jeune fille, toutes les pilules n'endorment pas l'ovulation. »
« Quoi ?»«
Et non, les ovulations sous pilule sans oubli, ça se voit, surtout quand on donne une pilule très légère avant 25 ans. »«
Je ne le savais pas. » »«
Oui, pour le savoir, il faut lire et avoir un peu de bouteille. Maintenant, vous le savez. »
Hier matin, je suis allée chez le médecin et j'ai été amenée par un gardien, l'un de ceux à brassard rouge qui ont pour mission ce genre de choses. Nous avons pris une voiture rouge, lui devant, moi derrière. Aucune jumelle ne m'a accompagnée. Ces jours-là, je suis unique. Je suis conduite chez le médecin une fois par mois pour des examens, urine, hormones, protéines de dépistage, prise de sang. La même chose qu'avant, sauf qu'à présent, c'est obligatoire. Le cabinet du médecin est un immeuble de bureaux modernes. Nous montons dans l'ascenseur, en silence, le gardien face à moi. Dans la paroi de miroir noir de l'ascenseur, je vois le dos de sa tête. Arrivé au cabinet, j'entre. Il attend dehors, dans le couloir, avec les autres gardiens, sur l'une des chaises placées là à cet usage. Dans la salle d'attente, il y a d'autres femmes, 3 en rouge. Ce médecin est un spécialiste. À la dérobée, nous nous entre-regardons, jaugeant le ventre des unes et des autres. Y a-t-il une chanceuse parmi nous ? L'infirmier enregistre les noms et les numéros inscrits sur nos laissez-passer dans le CompuDoc pour s'assurer que nous sommes bien celles que nous sommes censées être. Il mesure 1m80, la quarantaine. Une cicatrice en diagonale lui barre la joue. Il tape à la machine, assis. Ses mains sont trop grandes pour le clavier. Il porte toujours son revolver dans l'étui fixé à son épaule. Quand je suis appelée, je passe la porte qui donne dans la pièce intérieure. Elle est blanche, sans signe distinctif, comme la première, à l'exception d'un paravent pliant, un tissu rouge tendu sur le cadre, avec un œil doré peint dedans. Et plus bas, une épée dressée entrelacée de serpents, comme une espèce de poignée. Les serpents et l'épée sont des fragments de symbolisme brisé, survivance de l'époque d'avant. Après avoir rempli le petit flacon préparé à mon intention dans le cabinet de toilette, j'ôte mes vêtements derrière le paravent et les laisse plier sur la chaise. Une fois nue, je m'allonge sur la table d'examen, sur la feuille glaciale et craquante de papier jetable. Je remonte le second drap, celui du tissu, et m'en couvre le corps. Au niveau du cou, il y a un autre drap suspendu au plafond. Il me sectionne afin que le médecin ne voit jamais mon visage. Il a affaire uniquement à un torse. Quand je suis installée, j'étends la main, tâtonne à la recherche du petit levier placé sur le côté droit de la table, la baisse. Ainsi, quelque part, une sonnette tinte sans que je l'entende. Au bout d'une minute, la porte s'ouvre. Des pas s'approchent, il y a une haleine. Il n'est pas supposé me parler, sauf si c'est absolument nécessaire. Mais le médecin est bavard. « Comment nous appelons-nous » dit-il, un tic de langage de l'autre temps. Le drap est soulevé de la peau, un courant d'air me donne la chair de poule. Un doigt gainé de caoutchouc et enduit de gelée se glisse à l'intérieur de moi. Je suis fouillée et sondée. Le doigt se retire, pénètre autrement, ressort. « Tout va bien, » dit le médecin, comme pour lui-même. « Mal quelque part, ma belle ?» Il m'appelle ma belle. Je dis non. Mes seins sont manipulés à leur tour, à la recherche de maturité, de pourriture. Le souffle se rapproche. Je sens la vieille fumée, l'après-rasage, la poussière de tabac sur la chevelure. Puis la voix très douce, près de ma tête, c'est lui, qui fait ballonner le drap. Il murmure « Je pourrais vous aider. »« Comment ?» fait-il. « Je pourrais vous aider, j'en ai aidé d'autres. »« M'aider, » dis-je à voix aussi basse que la sienne. « Comment ?»« À votre avis, » dit-il, toujours dans un souffle. Est-ce sa main qui se glisse vers le haut de ma jambe ? Il a ôté son gant. La porte est verrouillée. Personne ne va entrer, ils ne sauront jamais que ce n'est pas lui, que ce n'est pas de lui. Il soulève le drap. La partie inférieure de son visage est recouverte d'un masque de gaz blanc réglementaire. Deux yeux bruns, un nez, une tête avec des cheveux bruns. Sa main est entre mes jambes. La plupart de ces vieux types ne peuvent plus machiner, dit-il, ou ils sont stériles. Je manque m'étouffer. Il a prononcé un mot interdit, stérile. Un homme stérile, ça n'existe plus, du moins officiellement. Il y a seulement des femmes qui sont fertiles et des femmes improductives. C'est la loi. Des tas de femmes le font, poursuivit-il. Vous désirez un bébé, n'est-ce pas ? Je réponds, oui. C'est vrai, et je ne demande pas pourquoi, car je sais. Donne-nous des fils ou je meurs. Cela a plus d'une signification. Il dit, vous êtes humide, c'est le moment. Aujourd'hui ou demain, ça marcherait. Pourquoi laisser passer une pareille occasion ? Ça ne prendra qu'une minute, ma belle. Le mot qu'il donnait à sa femme jadis, qu'il lui donnait peut-être encore, mais en réalité, c'est un terme générique. Nous sommes toutes, ma belle.
Oui, madame, je suis enceinte. De presque 3 mois. Oui, madame, j'ai fait faire les analyses. Oui, madame, je m'allonge. je vous en prie, doucement. Oui, je sais que ça ne fait pas mal, je suis juste un peu nerveuse. Vous savez, chez nous, on n'a pas la même éducation. Oui, j'ai déjà avorté il y a quelque temps. Sans anesthésie, ni totale, ni partielle, tout éveillé, quoi. Ça a été terrible. Quelle souffrance. Le pire, c'est la façon dont on m'a traitée. Comme si j'étais une putain. Je n'avais même pas le droit de crier. « Tais-toi !» disait-il. « Tu as fait une faute. Tu n'as qu'à payer. » Ah, d'ailleurs, j'ai payé. Hein. Cette fois, mon avortement, je veux que ça se passe bien. Je ne veux pas avoir mal. Anesthésie totale. Je veux dormir. Je ne veux rien sentir, rien de rien. Rien savoir, pas même le jour où vous me le ferez. Vous m'endormirez une semaine à l'avance. Et puis tranquillement, quand vous aurez le temps... Un million ? Ah, les prix ont augmenté, hein. Oui, oui, je me rends compte, l'anesthésiste, le risque... 1 million ? Je sais, madame, qu'il y a la loi, et j'en viens de la loi 194. J'ai cru devenir folle pour trouver un médecin qui me fasse le certificat d'avortement. L'hôpital qui m'inscrit sur les listes d'attente, finalement, on me convoque, j'y vais, ils étaient tous objecteurs. Il n'y avait qu'un médecin pour faire les avortements, épuisé. Tous les autres objectaient. Les infirmiers, ceux qui font les analyses, le cuisinier. Quel est l'objecteur, le cuisinier? S'il n'y avait pas eu les filles qui occupaient le service, nous serions mortes de faim. La police est arrivée, elle a chargé, elle a fait sortir les filles. J'ai eu peur. Je me suis dit, avec cette loi, vous allez voir que mon fils naîtra à 24 ans, dégagé des obligations militaires, parfaitement chômeur et prêt à émigrer en Allemagne. Je vais avorter clandestinement. 1 million ! Je comprends maintenant pourquoi les médecins sont objecteurs. Par contre, chaque objection, c'est 1 million qu'ils empochent sur notre dos. Non, finalement, je n'avorterai pas. Non, c'est pas pour l'argent, hein. Je pourrais me le faire prêter, c'est que je n'accepte pas le chantage. Il y a une loi, respectez-la. Oui, je le garde. Oui, oui, je le garde. Et puis, il faut avoir un enfant. Je me réalise. Oui, je me réalise. Je me réalise. Maternité, maternité. 3e mois, 4e mois, 5e mois, les seins gonflent, le ventre gonfle, en avant la gymnastique préparatoire. 1, 2, 3, 4, flexion, respiration du chien. Plus fort, j'ai la tête qui tourne. Syncope, nausée. Oh, il bouge. L'enfant bouge, comme un doux battement d'ailes. C'est doux. Des glaces. Une envie de glace à la chantilly, avec de la pastèque, des spaghettis et du saucisson. Cri aigu à partir du ventre. Ah, plus profond. Ah, plus profond. J'y suis. Oui, madame, je me détends. Oui, madame, je suis calme. La respiration du chien. Oui, je pousse. Oh Dieu, que j'ai mal. Ouh, je n'y tiens plus. Faites quelque chose. Ah, et il est où, lui? Il est où? Dehors. Et que fait-il dehors? Il fume nerveusement. Le pauvre, il est nerveux. Il est tendu. Il aurait mieux fait d'être tendu avant, au lieu de me mettre enceinte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette histoire, que c'est toujours la femme qui tombe enceinte et jamais le garçon, je ne l'avale pas. Je le conteste. C'est une obsession, j'en rêve la nuit. J'ai rêvé que mon homme avait des seins. Beaux, gros, ronds. Je voulais les lui tripatouiller un peu et lui, laisse-moi tranquille. Dieu sait ce qu'il croyait avoir là. Il m'a expliqué qu'il était un femelle. Un homme femelle, une race spéciale d'hommes. S'ils ont un rapport sexuel avec une femme sans avoir pris de contraceptif, ils tombent enceintes. Comme tu es beau. Allonge-toi. Allons, déshabille-toi, il faut que je te parle. Qu'y a-t-il? Je te sens nerveux, tendu. Tu ne prends pas la pilule. Ça ne fait rien, je t'aime quand même. Sois donc tranquille, je ferai attention. Tant pis si tu n'as pas pris la pilule. Si tu tombes enceinte, il y a la loi 194 qui te protège. Sinon, je te ferai faire ça clandestinement. Anesthésie totale, c'est moi qui paie. Mais si tu veux la voir, ton enfant, je t'épouserai. Faisons l'amour. Faisons l'amour. Tant pis si tu tombes enceinte. L'homme ne se réalise que quand il devient mère. Mère, mère. Ah, il est né, il est né. Il est né, il est né. C'est un garçon. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Partons en vitesse, à la course. 6h40, on va y arriver. Le sac à main de maman, la veste de maman, la clé. Où ai-je mis la clé? Tous les matins, le drame de la clé. Je dois perdre mon temps à chercher la clé quand je suis à une minute près. Du calme. Restons calmes. Tâchons de reconstituer ce que j'ai fait hier soir. Donc, je suis arrivée à la maison. Luigi n'était pas là. C'est moi qui ai ouvert la porte. Le petit est sur le bras droit de maman. Le sac et la clé dans la main gauche, je mets le sac ici, le petit dans le berceau, je ressors, je prends les sacs à provisions, et la clé toujours à la main, la bouteille de lait sous le bras, je rentre, les sacs, je les pose ici, le lait, je le mets au frigidaire, je parie que j'y ai mis aussi la clé. Non, ni dans le casier à œufs, ni dans le casier à beurre, le lait non plus, j'y ai pas mis, par contre j'ai mis la lessive au citron. Ah oui, c'est juste, on met toujours le citron au frigidaire, sinon il s'abîme. Je suis folle, je suis folle. J'ai dû mettre le lait dans la machine à laver. Il n'est pas, tant mieux. Où ai-je bien pu mettre le lait? Sur le gaz, pour le biberon du petit. Même pour avoir les mains libres et ouvrir le carton, j'ai pris la clé entre les dents. Je ne saurais pourquoi entre les dents et pas sur la table. Ensuite, j'ai allumé le gaz, donc le lait pour le petit est sur le gaz. J'allume le bébé, j'allume le lait, j'allume le gaz. Je laisse bouillir le lait et je vais détruire le môme, enfin lui enlever les langes. Je mets le petit sur la table, ou plutôt non, je mets le bébé sur le bras, je vais à l'armoire, je prends la bassine pour le bain, toujours avec la clé entre les dents. Je mets la bassine ici, je cherche le petit. Le petit n'est plus là, j'ai perdu le bébé. Où ai-je mis le bébé? Dans le frigidaire, dans la machine. Dans l'armoire, j'avais mis le bébé dans l'armoire. Heureusement qu'il s'est mis à pleurer, sinon Dieu sait que quand je l'aurais trouvé. Mon pauvre petit, j'ai eu tellement peur que je me suis précipitée boire un verre d'eau. Je parie que j'ai avalé la clé. Là. Et oui, je l'avais mise entre les dents. Je ne peux pas l'avoir avalée, c'est une clé creuse. J'aurais sifflé toute la nuit et Dieu sait quelle scène Luigi m'aurait fait. Où ai-je mis la clé? Du calme. Restons calmes, je prends la bassine, je vais la remplir d'eau chaude. Je prends le bicarbonate parce que j'en mets toujours 2 cuillerées dans l'eau du bain pour le petit. Du sucre. Qui a mis le sucre dans le calme du bicarbonate et le bicarbonate dans celui du sucre? Depuis quand est-ce que je donne son bain au bébé dans de l'eau sucrée? Voilà pourquoi la sœur de la crèche m'a dit « Je suis obligée de garder votre enfant à l'intérieur. Dès que je le mets dehors, les abeilles, les frelons et les mouches lui vont dessus. Pauvre petit !» Et les yeux qui me fait une scène pour le café. J'avais mis du bicarbonate. Il y avait de ces renvois. Mais où ai-je mis la clé? Je suis idiote. Hein. Je ne sais pas, mais pas ça du tout. Je n'ai même pas retiré la clé de la serrure. Et oui, en donnant son bain au petit, j'ai entendu Luigi partir dans la serrure. Parce qu'une fois rentré, j'avais refermé la porte et il ne pouvait pas l'ouvrir. Il farfouillait, farfouillait et commençait à jurer. J'ai retiré la clé de la porte. Il est entré. Il criait comme un fou. La clé, je l'avais à la main, j'en suis sûre. Je suis allée le regarder sous le nez et je la lui ai brandie entre les deux yeux. C'est tout juste si je ne voulais pas lui en arracher un. J'ai dit, j'ai oublié la clé dans la serrure et alors, tue-moi. Laisse-moi tranquille, me fais. C'est pas pour la clé que je suis furieuse, c'est parce que cette maudite navette a eu 1 heure de retard. 1 heure et demie pour faire 20 km. Autant d'heures que le patron ne me paie pas, pas plus qu'il ne me paie le billet, ni l'aller, ni le retour, et le tram non plus. Ce sont pourtant des trajets que je fais pour lui, pas pour me promener. Et c'est à moi qu'il m'en... Tu t'en prends? Je lui dis. Toujours avec la clé en main. D'abord, on ne dit pas patron. On dit multinational. Il n'y a plus que les chiens qui est un patron. Nous, nous sommes des êtres libres. Le patron multinational te sucre les heures de transport et tu es furieux, mais les heures qu'il me sucre à moi, hein, ça te fait rien. Moi, quand j'ai fini de travailler comme une bête pour lui, je te sers encore de bonne gratis, pour lui, pour le multinational. Pendant ce temps-là, j'ai donné le biberon au petit. Je l'ai pris dans mes bras. Ah, oh, il a encore fait, quel chien! Combien de fois il faudra que je dise que c'est à la crèche que tu dois faire caca? À 7h02, tu fais caca, comme ça c'est la sœur qui te rechange. Quelle heure est-il? Oh, Dieu, qu'il est tard, je vais pas y arriver. Je vais perdre une journée de salaire. Espèce de chien, regardez-moi ça. Avec un derrière aussi petit, comment peut-on faire un aussi gros caca? La famille. La sainte famille. Ils l'ont inventé exprès pour que les névrosés des cadences infernales comme toi trouvent en nous des femmes à tout faire, des coussins amortisseurs. Nous vous régénérons pour lui gratis et le lendemain, vous êtes bien détendu, prêt à produire encore davantage pour lui, le multinational. Lui, c'est Dieu le Père. C'est lui qui fait le boue et le contre-boue, la dépression et l'inflation. Puis la crise galopante, la crise larvée, la chute de la lire, l'euro-dollar, le pétro-dollar. Ensuite, il écarte les bras et s'écrie « Je n'ai pas rien, c'est la fatalité. » Luigi se met à rire. « Eh, j'ai une femme féministe extrémiste et je n'en savais rien. Depuis quand vas-tu aux réunions féministes ?»« Écoute, idiot, je n'ai pas besoin d'aller chez les féministes pour comprendre que la vie que nous menons, c'est une vie de merde. Nous travaillons comme des chiens. Jamais une minute pour échanger deux mots. Jamais une minute à nous. M'as-tu jamais demandé « Tu es fatigué ?» Tu veux un coup de main? Qui fait la cuisine? C'est moi. La vaisselle? C'est moi. Les courses? C'est moi. Les acrobaties en fin de mois? C'est moi. C'est moi. C'est toujours moi. Et pourtant, je travaille, moi aussi. Tu salis des chaussettes, mais qui les lave? C'est moi. Combien de fois tu lavais mes bains? Je veux pouvoir parler avec toi. Je veux vivre avec toi. Et non habiter avec toi. Penses-tu quelquefois que je peux avoir des problèmes moi aussi? Je veux bien que tes problèmes soient les miens, mais je voudrais aussi que mes problèmes soient les tiens. Et ne pas toujours être seule avec tes problèmes en plus des miens. Je veux pouvoir parler, parler avec toi. Mais quand tu rentres du travail, tu te flanques au lit. Le soir, c'est la télévision. Le dimanche, le match. Hein, pour voir 22 crétins en caleçon se donner des coups de pied autour d'un ballon avec au milieu un autre débile de patronage en caleçon lui aussi mais avec un veston rouge et un sifflet. Luigi qui en était tout rouge, vexé comme si j'avais insulté sa mère, me fait « Tu ne peux rien comprendre au sport ». C'était pas précisément ce qu'il fallait répondre. J'ai vu rouge. Je criais comme une folle. J'ai tout sorti. Je criais, il criait... J'y suis allée fort, il est allé encore plus fort, jusqu'à ce que je dise « Si c'est ça le mariage, ça veut dire que j'ai commis une erreur. » J'ai pris mon erreur dans mes bras, enfin mon enfant dans mes bras, et je suis partie.
À ce moment-là, j'avais la clé dans la main, j'en suis sûre. Je l'avais parce que j'ai ouvert la porte. Luigi s'approche. Il en faisait une tête pour Luigi. Il était tout blanc, avec un cafard. Je ne lui avais jamais fait une scène pareille et je ne plaisantais pas. Il avait bien compris. Il me fait rentrer à la maison. Voyons, pas comme ça, attends, laisse-moi tranquille. Parlons d'abord, parlons. Et après, si tu veux partir, bon, mais parlons d'abord. La dialectique, ça existe, non? Alors, il me pousse vers le lit. Dialectique, il me fait asseoir. Il me dit que oui, j'avais raison. Mais qu'il avait l'habitude, il avait toujours été habitué avec sa mère. Il croyait que j'étais comme sa mère. Il s'était trompé. Il devait changer. En somme, il a fait son autocritique, comme on dit. Il l'a fait si bien que je pleurais. Et plus il s'autocritiquait, plus je pleurais. Et plus je pleurais, plus il s'autocritiquait. Comme c'était bon de pleurer hier soir. La clé, sûr, c'est lui qui l'a prise. Dans la poche de son veston. Il l'a mise dans la veste. La voilà, la mienne et la sienne. Quelle heure est-il? C'est à moins 10, on va y arriver. Allons, mon pantoufle, on y arrivera. Le bébé de maman, la veste de maman, le sac de maman, la carte de tram. Attends, laisse-moi chercher ma carte, sinon dans le tram, s'il est plein, il faudra que je te pose par terre et tu seras écrasé. La voilà. 6 trous pour l'aller et 6 trous pour le retour. 6 allées et 6 retours. Qui m'a fait ces trous dans ma carte? 6 trous. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Dimanche. Et toi qui ne me disais rien, c'est dimanche. Mais je suis folle, je voulais travailler un dimanche. C'est dimanche. Et le dimanche, on ne travaille pas et on dort la grasse matinée. Au lit, bébé, au lit, on dort. Je veux rêver un monde où tous les jours, c'est dimanche. Une vie entière de dimanche. C'est la fin du monde. L'avènement du dimanche éternel. Fini les autres jours de la semaine. Le lundi, on l'a perdu. Le jeudi, on l'a fusillé. Le vendredi, on l'a haché menu. Et tous les jours, dimanche, dormir petit. Dormir. Et si je rêvais encore que je travaille, je m'étranglerais moi-même. Dormir.
La petite fille qui a grandi serre sa poupée bien fort sur sa poitrine. Et peu à peu, la poupée disparaît dans son cœur. Maintenant, la petite fille qui a grandi est seule sur une longue, longue route. Elle marche, elle marche. Elle arrive sous un grand arbre. Et sous cet arbre, il y a beaucoup de petites filles qui ont grandi comme elle et qui lui font la fête. « Assieds-toi, lui disent-elles, viens avec nous. Nous racontons notre histoire, chacune son tour. Commence, disent-elles à une blondinette qui se trouvait là. Et la blondinette commence. Moi, quand j'étais petite, j'avais une poupée de chiffon qui disait des gros mots. Toutes les filles assises en cercle éclatent de rire. Comme c'est drôle, qui l'eût cru ? Nous avons toutes la même histoire. Toutes la même histoire à raconter.